L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes à l'intérieur de la collégiale Sainte-Gudule à Bruxelles. Magnifique édifice religieux, certainement parmi les plus beaux d'Europe. La Maison de Dieu accueille aujourd'hui tout le gratin européen. Des souverains, au Premier ministre, jusqu'aux ambassadeurs, tous, ce matin, viennent assister à un mariage. Princier, pour le moment du moins. Dans quelques instants, la mariée entrera au bras de son père, éblouissant par là même une assistance totalement scotchée. Dans le froid passage vers le cœur de la nef, l'attend son prince. Le prince de Brabant, pour être précis. Elle vient d'un pays lointain, là où un jour, Viking, Odin et Thor vivaient au milieu des forêts et des légendes. Elle s'appelle Astrid de Suède. Et tout un pays vibrera bientôt autour de sa beauté et de sa bonté. Nous sommes le 10 novembre 1926. Et le destin de la royauté belge s'apprête à prendre un nouveau virage sous l'impulsion d'une étoile filante. Il est 11h. Et c'est leur H de mon histoire. Léopold Philippe Charles Albert Meinrad Hubertus Marie Miguel de Saxe-Cobourg est un prince et un jeune homme comblé en ce mois de novembre de l'année 1926. Près de l'hôtel, il attend. Il est âgé de 25 ans depuis une petite semaine. Quel cadeau que ce mariage! Loin des convenances habituelles lors de ce type d'union, il s'agit là d'un mariage d'amour, du moins de son côté. Cet amour, c'est l'histoire d'un véritable coup de foudre dans les jardins du palais de Stockholm. La beauté de la jeune femme l'a tout de suite subjuguée. Et après de multiples voyages effectués entre ce printemps et l'été précédent, il a osé déclarer sa flamme. Après un long et pénible silence, la jeune femme a décidé d'accepter de l'épouser. Enfin, il s'était en effet rendu plusieurs fois en Suède incognito, même les servantes du palais n'étaient pas au courant de sa présence dans les murs. Il s'était fait passer la première fois pour un Français, vous imaginez. Il était alors accompagné de sa mère, puis il était venu seul, plusieurs fois, avant que tout ce petit manège ne soit officialisé par son père, le roi Albert Ier. L'héritier au trône allait avoir une femme et, disons-le, cela n'avait pas été prévu de cette manière. Mais soit, les voilà réunis, tous, à Sainte-Gudule, pour l'union religieuse. Le mariage civil a eu lieu il y a quelques jours en Suède. Oui, avant cela, il y a bien eu, disons, quelques problèmes d'ordre religieux. Mais ils sont derrière lui. Léopold est tiré de sa rêverie par la toux persistante de sa mère, la reine Élisabeth, assise au premier rang dans l'assemblée. Son père est là, aussi, bien entendu. Le regard fier, tourné vers ses invités prestigieux. Oh, tous ont répondu présents. Toutes les huiles européennes sont venues, curieuses de voir le tout nouveau couple à la mode chez les têtes couronnées. Le temps n'est pourtant pas idéal pour un mariage princier, oh, loin de là. Toutes ces tergiversations ont retardé la cérémonie, donc ils en viennent à se marier aux portes de l'hiver. Et à Sainte-Gudule, pas de chauffage, vous l'imaginez bien. Et donc la reine tousse, et elle n'est pas la seule. C'est le revers de la médaille pour avoir le droit d'assister à de telles festivités. Les tentures au mur isolent un peu l'atmosphère et maintiennent l'once de chaleur dégagée par la foule présente. On garde cependant ses mains bien au chaud dans ses poches. Les militaires portent leurs manteaux longs. Les plumes des couvre-chefs ont pris l'humidité. Léopold, lui, est aussi en tenue militaire, bardé de médailles et de décorations. À chacun de ses mouvements, des cliquetis se font entendre dans le cœur de la nef, qui, elle aussi, patiente. Mais que peut-elle bien attendre ? Bien l'arrivée de la future mariée, pardi. Et elle ne va pas tarder. Le protocole se doit d'être respecté. Réglé comme du papier à musique par les personnes en charge au palais. Tout indique qu'Astrid va faire son entrée d'une minute à l'autre. la basilique Sainte-Gudule est le lieu de toutes les célébrations de ce genre. La nef, aux 8 traversées et 3 niveaux, est un modèle de ce que l'on peut faire de mieux en termes de gothique brabançon. Fer de lance de la religion catholique en Belgique, l'édifice est immense. La chapelle du Saint-Sacrement, qui y est abritée, est reconnue dans l'Europe entière et son cœur, endroit dans lequel se trouve maintenant le futur marié, est baigné de lumière malgré les nuages à l'extérieur. Les yeux tournés maintenant vers le ciel, Léopold laisse aller son regard au travers des multiples vitraux et chapelles latérales qui sont les organes vitaux de cette somptueuse maison du Seigneur pour les catholiques. Elle respire ce matin, la cathédrale. Il le sent, le jeune héritier. Tout vit en cet endroit sacré. Les reliques, l'autel, les couleurs qui se répondent, la chère Renaissance et les tableaux. Rien n'est laissé au hasard. Et rien ne meurt jamais sous l'égide du plus grand. Mais voilà que résonne la musique dans la nef. Elle se réverbère sur les piliers et jusque dans les tympans de notre jeune héros du jour. Perclus d'anxiété, le jeune prince prend soudain toute la mesure de ce que signifie cette union décisive pour l'avenir du royaume. Le prince Karl de Suède, enfin, s'avance sur le perron de l'édifice. À son bras, l'assemblée découvre et accueille Astrid. Le mythe venu de Suède s'avance enfin vers sa destinée et vers son futur époux. La jeune femme porte une robe longue blanche et sur ses épaules, une fourrure qui vient lui couvrir une partie du cou. Sur son corsage, une dentelle de la reine Louise, la femme de Charles X de Suède. Symbole même de l'élégance et du raffinement en Scandinavie. Son voile, lui, est en dentelle, de maline, bien entendu. Rien n'est jamais laissé au hasard. Il est surmonté d'une couronne en fleurs de myrte. Le manteau de cour, enfin, est parsemé de délicates roses blanches, brodées ici et là. L'assistance est stupéfaite devant tant de beauté. Une taille fine, le regard délicat et une aisance à la marche qui n'a rien envié aux mannequins de notre époque. La princesse Astrid de Suède étale toute sa classe. Au grand bonheur de son père, dont la moustache frétille. Oh, il est tellement heureux de ce mariage qui scelle aujourd'hui une amitié qui, depuis longtemps, méritait d'être matérialisée. Astrid, elle, a les jambes qui tremblent un peu. Chaque pas la rapproche un peu plus d'un Léopold aux yeux illuminés. Si au départ, ce coup de foudre n'était pas si évident pour elle, la toute jeune princesse de Belgique s'est laissée séduire et apprivoiser, peu à peu, au point aujourd'hui d'être sincèrement heureuse de cette union qui semble être scellée sous les meilleurs auspices. Elle ignore encore tout, au moment où elle s'avance, du destin qui l'attend. Elle ne peut imaginer combien sa popularité bientôt la conduira au cœur de tous les foyers d'un pays qui, pour elle, vibrera à l'unisson. Telle une étoile filante au-dessus de la cathédrale de Bruxelles, Astrid est née pour être une comète dans l'histoire de la Belgique. Magnifique, ravissante, resplendissante. Mais qui s'est éteinte trop tôt. L'héroïne d'une tragédie grecque en bonne et due forme, dont le futur Léopold III sera aussi l'un des héros malheureux. Comme si, lors du décès de cette femme dont il est tombé éperdument amoureux, son destin à lui aussi allait basculer. Son abdication en 1951 n'est peut-être pas étrangère, d'ailleurs, à la disparition de sa bonne étoile venue du Nord. Nous allons y revenir. Préparez-vous. Nous plongeons aujourd'hui au cœur d'une histoire d'amour qui ne ressemble à aucun autre conte de fées. Pourtant, nos héros sont bien de sang royal. Un prince, futur roi. Et surtout une princesse, future reine. L'une des plus aimées d'une monarchie qui ne cesse de s'appuyer sur des femmes à l'influence durable. Notre histoire commence quelques mois plus tôt. Nous sommes en Suède, au tout début du printemps 1926. Toute tragédie qui se respecte commence de la même manière, par la naissance d'une belle histoire d'amour. Oh, loin de moi l'idée de vous raconter seulement le côté pointé par l'adage célèbre. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, non, ici notre histoire est un peu plus complexe, un peu plus tortueuse. Revenons au cours des premiers mois de l'année précédente. 1925 bat son plein. C'est encore en Belgique comme ailleurs le temps de l'insouciance. Le parfum de victoire de la Grande Guerre y règne toujours et l'économie se porte bien. Nous ne sommes pas loin de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. L'ombre de la récession et de la grave crise économique de 1929 est encore loin. La bulle spéculative qui va finir par éclater gonfle encore à tout va. C'est la ruée à la motorisation. On abandonne progressivement les calèches pour les voitures. C'est l'heure de tous les possibles, de toutes les innovations. Ah, qu'il est bon de vivre à cette époque bénie. Enfin, du moins quand on est dans le camp des vainqueurs de 14-18, parce qu'en Allemagne, c'est déjà une autre histoire. Mais malheur aux vaincus, comme avait clamé un jour un chef de guerre barbare face aux Romains défaits. C'est après tout la dure loi et vérité de l'histoire. En Belgique, en tous les cas, il fait bon vivre. Le roi Albert Ier et sa femme, la reine Elisabeth, sont aux commandes depuis près de 16 ans. Une aura bien particulière entoure ce couple de souverains au patriotisme singulier. Ils furent les héros d'une guerre qu'ils ont menée avec un courage qui force l'admiration de tous. Aujourd'hui, à Spa, la reine s'apprête à mener une opération bien particulière en secret. Enfin, en secret tout est relatif. Disons qu'elle manigance un coup. Son fils aîné, Léopold, est en âge de se marier. Un jour, sauf imprévu, il va monter sur le trône à la place de son père. Et le pays aura alors bien besoin d'une souveraine qui sera capable d'assumer ce rôle bien difficile à porter. Elle est bien placée pour le savoir, d'autant qu'elle-même a placé la barre très haut. La reine infirmière, c'est son surnom. Elle le doit à l'aide sincère et importante qu'elle a portée aux blessés de la Grande Guerre. Elle est un mythe, à elle seule. Sans même parler de son mari, le roi. Depuis la panne, elle a refusé, tout comme lui, de quitter le territoire pour rejoindre le gouvernement en exil en France. Ils le savent. Leur place, à tous les deux, est auprès du peuple. Et que dire de sa vision humaniste, novatrice et tout à fait moderne ? En bref, cette reine des Belges est très loin d'être une potiche. C'est une femme d'intelligence et d'action. Elle s'apprête d'ailleurs à partir en voyage officiel avec Albert Ier aux Indes. Depuis la fin du conflit, c'est maintenant le cœur de leur activité. Elle a découvert les États-Unis dès 1919, puis le Brésil, quelques mois plus tard. Le gouvernement du pays n'est pas idiot. Il veut profiter de cette image de vainqueur et de résistant dont bénéficient les souverains pour affirmer la place de la Belgique dans la diplomatie de ce monde en constante évolution. Élisabeth, en partance pour l'étranger une nouvelle fois, a convenu avec son royal époux qu'elle se rendrait seule à cette entrevue des plus secrètes. Elle a dressé, comme c'est la coutume, une liste de plusieurs prétendantes assez distinguées pour prétendre à devenir l'épouse du prince et donc, par effet de domino, la future reine. Des princesses allemandes, comme elle, mais pourquoi pas une britannique ou une russe, ou bien encore une scandinave. Oh, certes, ce n'est pas son premier choix, ni sa première idée, mais on lui a parlé d'une beauté venue des pays froids, assez charmante pour prendre le rôle à pleine mesure. Elle vient de Suède. C'est là son origine. Elle s'appelle Astrid. Et son profil l'a suffisamment intriguée pour qu'elle provoque une rencontre. Élisabeth, en traction, arrive discrètement aux établissements thermaux de la ville qui est aujourd'hui aussi connu pour son eau que pour son circuit de voitures de course. Enfin, disons tout de même que la légende du circuit de Spa est largement postérieure à l'année 1925. Mais tout de même, nous sommes au même endroit. Elle est arrivée la première à Spa, la reine. Elle se tient dans un coin, à l'écart de l'agitation et de potentielles oreilles curieuses. On ne peut pas dire que la beauté de cette souveraine a transcendé son temps. Elle a cependant des yeux assez perçants pour faire détourner le regard de n'importe quel individu sur Terre. Et ce regard est capable de bien des choses. En premier lieu, de cerner les gens très rapidement. Astrid de Suède va donc passer au rayon X. Ah bah tiens, la voilà qui arrive d'ailleurs, accompagnée d'une femme qu'Elisabeth ne connaît pas. Certainement une interprète ou une personne de la suite princière de Suède, se dit-elle. Première surprise pour la reine Elisabeth, les premiers échanges entre elle et la jeune femme se font dans un anglais parfait. L'accompagnatrice, donc, n'est pas une intermédiaire, non. Elle reste stoïque dans sa fourrure et regarde les deux femmes d'un œil distrait, un peu comme le ferait un garde du corps. Elle devrait pourtant plutôt se concentrer. Elle est la seule et unique témoin d'une première rencontre qui va enclencher un processus qui va marquer l'histoire. Au bout d'une heure durant laquelle, l'air de rien, la reine teste Astrid de toutes les manières possibles et inimaginables, cette dernière prend congé et retourne dans son hôtel. La jeune femme peine à dire si elle a fait ou non bonne impression. Et d'ailleurs, elle n'est pas si enthousiaste à l'idée que les choses avancent vite. Elle est encore jeune et ce n'est pas nécessairement pour elle une priorité de se marier. C'est une princesse, certes. Elle sait quel est son rôle. Mais elle ne prend pas la mesure de celui qui l'attend, de manière hypothétique pour le moment, en Belgique. Le rôle de reine. Elisabeth, elle, a fait parler ses yeux acier. Pour elle, le test est réussi. Elle est même de son côté très heureuse et agréablement surprise par cette entrevue. Elle est charmée par l'allure, le visage, la classe et la bonté qui transparaît dans les faits, gestes et paroles de cette jeune femme. On sent qu'elle a été parfaitement élevée en fonction du rang qui est le sien. Alors c'est décidé. Elle fait part à Albert Ier de sa volonté, après les Indes, d'accompagner Léopold, duc de Brabant, en Suède. Provoquer les choses et son rôle de mère, et plus encore, de souveraine. C'est ainsi qu'au début du mois de mars de l'année 1926, arrivent en Suède, à Stockholm, mère et fils, tous les deux sous couvert d'anonymat. On présente Léopold comme un professeur de lettres, curieux de découvrir les traditions scandinaves. Mon œil, oui. C'est une princesse qu'il vient voir. Il est reçu à la villa Fridhem, dans la région du Kolmården. Ce massif forestier, magnifique ensemble de collines verdoyantes et boisées, est une région idéale pour randonner et offre de nombreuses possibilités de sortie dans la nature, propice au rapprochement souhaité par les deux dynasties. La couronne de Suède aussi a eu à valider le choix de la reine Elisabeth de Belgique. Et fort heureusement pour cette dernière, elle s'est retrouvée très honorée de l'intérêt porté à la princesse Astrid. Les choses doivent donc maintenant s'organiser. Rappelez-vous, je vous ai raconté que tout cela était soudain et que le mariage était une union d'amour, certes, mais rien n'a été laissé au hasard pour autant. Pour le prince qui voyage sous couvert de son professorat en lettres, cette première rencontre est une absolue révélation. Tout chez Astrid le fait frémir, et il en est subjugué. Mais comme vous l'avez déjà entendu, elle est plus mesurée. Oh, elle est flattée par cet intérêt, trouve le jeune homme à son goût, sans plus, et ne se rend pas compte, là encore tout de suite, de l'empressement de ce dernier pour la demander en mariage. Léopold ne va bien entendu pas le faire dès la première rencontre, non. Non, il va attendre encore un peu. Astrid, en effet, réclame plusieurs autres voyages, tous en Suède. Le rapprochement tant attendu peine un peu à se faire. En effet, les deux jeunes gens passent de longs moments en silence, sont très timides, communiquent exclusivement en anglais. Heureusement, le prince le maîtrise, mais tout de même, ce n'est pas sa langue maternelle. On croit même un moment dans les hautes sphères que tout va tomber à l'eau. Ce n'est qu'au cours de l'été qu'après une déclaration enfin prononcée par le prince, sincèrement épris de sa promise, qu'elle accepte. Il avoua tout de même à sa sœur, Marie-Josée de Belgique, qu'elle lui donna son accord après un très long silence des plus angoissants. La nouvelle du mariage ne tarda pas à être communiquée en septembre 1926 par le Premier ministre et le couple royal lui-même. Face à la presse, la reine Élisabeth est la première à annoncer qu'il s'agit d'une union d'amour et non d'un calcul politique. Tout se met donc en place sereinement pour célébrer l'union des jeunes fiancés. Pour un temps du moins. Car très rapidement, un problème, et non des moindres, va se poser. Les deux jeunes gens ne sont pas de la même confession. En effet, Léopold est catholique par tradition familiale. La Suède, elle, majoritairement, et c'est le cas de la famille souveraine, est luthérienne. Religion réformée donc. Le clergé du plat pays fait des bonds de 3 mètres et exige que la princesse se convertisse. Refus catégorique de l'autre côté, cette demande est prématurée. Mais alors, qui aura la primeur du mariage religieux? La fonction finit par l'emporter et c'est la Belgique qui rafle la mise pour une union programmée au mois de novembre. Mais un mariage civil, lui aussi, est nécessaire. La reine Élisabeth intervient auprès des autorités pour que ce mariage ait lieu en Suède. La Suède accepte ce compromis et en profite pour imposer qu'une cérémonie luthérienne ait également lieu dans le pays natal d'Astrid. C'est ainsi que le 4 novembre 1926, soit 10 jours avant la cérémonie prévue à Sainte-Gudule, à 15h30 exactement, les fiancés se disent oui pour la première fois, en présence des deux familles régnantes. Cette cérémonie durera 7 petites minutes et hop, retour en Belgique pour la famille royale et Léopold qui doivent préparer la deuxième cérémonie du 10. Mais le plus dur est fait. Ils sont déjà mariés. La jeune princesse, elle, prend le chemin de l'Europe occidentale par la voie de la mer et arrive à Anvers. Elle est attendue avec impatience par une foule dense et compacte qui la salue avec ferveur. Et par son époux, qui lui aussi, tellement heureux de la revoir, fait tomber les barrières de sa timidité et court vers elle pour l'embrasser tendrement. Le tout en public. C'est ce premier acte d'amour qui liera le couple au peuple belge de manière durable, sincère. La spontanéité de la part d'une famille royale est toujours une qualité prisée par la population. La joie est telle, à la suite de ce baiser, que les barrières sont renversées par les spectateurs qui accourent vers le couple. Les jeunes gens ne paniquent pas et prennent leur premier bain de foule. Le 10 novembre arrive enfin et la cérémonie va mettre un terme au parcours de combattants qu'a été la préparation de leur union. Voilà qu'Astrid est la nouvelle duchesse de Brabant et princesse de Belgique. Une nouvelle vie s'offre à elle.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur H porte sur un destin royal aussi magnifique que fulgurant. Celui d'Astrid de Suède, femme du roi Léopold III et reine de Belgique. L'amour entre les deux jeunes gens, s'il n'est d'abord qu'un coup de foudre du côté de Léopold, est sincère, fort. Le couple héritier du royaume se marie le 10 novembre 1926 et une nouvelle vie démarre pour eux. Ils ont l'insouciance de la jeunesse et sont portés par l'amour de tout un peuple qui aime leur spontanéité et leur fraîcheur. Leur vie s'annonce radieuse. Et avant de devoir porter sur leurs épaules le poids des responsabilités liées au trône, ils vont se consacrer à souder leurs liens. Nous sommes maintenant dans le courant de l'année 1930. La crise économique est passée par là. Les tensions en Europe s'installent et le fascisme, un peu partout au sein des vieilles nations d'Europe, émerge. Mussolini en Italie. Hitler prend une épaisseur qui ne cesse de s'élargir en Allemagne. Bref, le climat est aux tensions et aux bouleversements. La Belgique, malgré tous ces phénomènes qu'elle perçoit, elle aussi, est au cœur depuis plusieurs années d'une Astrid mania qui ne cesse de s'élargir. Elle a conquis les Belges, devenant avant l'heure déjà la princesse des cœurs. Ce n'est pas le dernier des parallèles que nous ferons avec Lady Di, nous le verrons un peu plus tard, même si, dans le cas présent, il sera particulièrement tragique. Mais l'heure n'est pas pour le moment à l'inquiétude. Tout au contraire, les époux aujourd'hui déménagent au château de Steuvenberg, magnifique demeure royale du XVIIIe siècle, château au sein duquel Albert Ier avait logé sa maîtresse. C'est dans cet écrin de verdure, tout près du château de Laeken, que le duc et la duchesse de Brabant vont bâtir leur famille. Deux futurs rois vont naître dans ce domaine magnifique, Baudouin et Albert II, respectivement en 1930 et 1934. La fille aînée du couple, Joséphine Charlotte, voit le jour en 1927. La vie de famille ravit le couple royal et la population belge se passionne pour les goûts et la personnalité de la princesse de Belgique. Astrid est une véritable star qui semble tout droit sortie des plateaux de tournage des plus grands films américains. Sa beauté subjugue, tout comme sa grâce. Le tout est conjugué avec une incroyable dévotion envers les plus démunis du royaume. Astrid organise des collectes de fonds, participe à des actions caritatives en tout genre et reste en première ligne dans le combat contre la pauvreté et la crise économique. Les années s'écoulent paisiblement ainsi entre engagement officiel du prince à l'étranger, notamment au Congo, et actions associatives qu'elle mène seule. Le destin, pourtant, va bientôt se charger de rattraper ce couple dont la popularité est au firmament. La décennie 1930, en effet, s'annonce des plus particulières, difficiles. Elle est marquée par la naissance de ses deux garçons, certes, mais alors qu'elle est enceinte d'Albert en 1934, c'est toute la couronne qui va être frappée par une tragédie à la portée immense. Le roi Albert Ier, tragiquement, va disparaître. Le roi est mort. Vive le roi. Nous sommes le 17 février 1934. Le roi chevalier, Albert Ier si vous préférez, est en randonnée, en pleine ascension. Il est là. Il est fatigué. Il est usé par l'exercice du pouvoir. Lui qui, rappelez-vous, a vécu de plein fouet le premier conflit mondial. Heureusement, le souverain de 58 ans, à la fine moustache, est un sportif aguerri. Il est par exemple un excellent alpiniste, sport qu'il pratique depuis longtemps. Il a d'ailleurs prévu de séjourner prochainement dans les Dolomites ou dans les Alpes, c'est selon. Et pour le moment, il doit s'entraîner, se rôder à la perspective de flancs de montagnes et de sommets périlleux. Et quoi de mieux que la Belgique pour se frotter aux difficultés de l'alpinisme ? Les mauvaises langues disent toujours que tout y est plat, mais elles se trompent. La preuve, Albert est en train de gravir en ce jour de février les rochers de Marche-les-Dames, dans la vallée de la Meuse, non loin de Namur. Oh, il est habitué à ce terrain, il le connaît. C'est d'ailleurs peut-être ce qui va le perdre. Accompagné de son valet Théophile Van Dijk, le roi soldat fait une première ascension, puis annonce en fin d'après-midi qu'il repart en faire une deuxième. Attendu le soir à la capitale, il se sait pressé. Mais vers 17h, toujours rien. Le roi ne revient pas. Mort d'inquiétude, le valet prévient les secours. Le corps du souverain sera retrouvé à 1h30 du matin, inanimé. Ses funérailles nationales, cela va de soi, ont lieu le 22 février dans la capitale. Son cercueil, tout un symbole, est posé sur un affût de canon. Pour Léopold, c'est une nouvelle dimension de sa vie qui naît avec cet accident tragique. Le voilà roi, très jeune d'ailleurs. Il n'a qu'une petite trentaine d'années au compteur. Or, bien entendu, toute sa vie, on l'a préparé à prendre ce rôle, mais si tôt, et de cette manière. Vous en conviendrez, comme moi, c'est une tâche loin d'être simple que celle d'être roi. Pour Astrid aussi, c'est le choc. Mais elle saura accompagner son mari du mieux possible et négocier ce virage délicat à la perfection. Celle qui, déjà princesse, prenait à bras le corps les questions sociétales, continue dans cette voie une fois couronnée reine consort des Belges. Les deux époux se tiennent souvent la main en public. Parfois, Astrid sort sans escorte, montrant là toute sa confiance et son attachement à ses sujets. C'est tout un peuple qui vibre pour elle, pour sa bonté, pour sa sensibilité. Son plus beau fait d'armes en tant que souveraine est certainement son appel de la reine, resté dans toutes les mémoires. Dans la droite ligne de ses engagements précédents envers les plus démunis, elle décide de prendre sa plume et d'écrire au Premier ministre de l'époque et au gouvernement toute sa préoccupation sur les effets de la crise économique dans le pays. En février 1935, elle rédige ceci. Monsieur le Premier ministre, de nombreuses initiatives se manifestent déjà, je le sais, dans toutes les classes de la société. Mais le moment est venu de faire davantage, d'apporter une aide aux enfants, aux adultes, aux vieillards qui souffrent le plus cruellement de la crise et de la misère. Astrid est aimée de tous. Sa popularité est à son paroxysme. Mais alors que beaucoup se contenteraient de paroles, la reine joint les mots aux actes, ouvrant les portes de son palais, organisant des collectes de fonds, de vêtements, qu'elle centralise dans sa propre demeure avant de les redistribuer. L'initiative, particulièrement suivie et soutenue, s'élargit par la suite à des vivres, des biens de première nécessité, du matériel pour les enfants dont les familles ne peuvent rien financer, et puis des jouets aussi pour ces petits bouts victimes d'un système sur lequel ils n'ont aucune prise. Son aide et son dévouement sont totaux. La souveraine est à sa place. Elle accueille, elle protège, elle conseille son époux le roi qui, d'office, profite lui aussi de ce soutien populaire. Pourtant, le destin, une fois encore, va s'acharner sur la famille royale de Belgique. Un peu plus d'un an après le décès accidentel du roi Albert Ier, une nouvelle tragédie va s'abattre sur la couronne. Et cette fois, c'est leur reine bien-aimée, Astrid, qui en sera la malheureuse victime.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur H est au cœur du palais royal et de la monarchie de notre pays. Nous y évoquons le destin magnifique d'Astrid de Suède, princesse, puis reine, femme de Léopold III, couronnée à la suite de la mort de son père Albert Ier en 1934. Princesse puis souveraine des cœurs, Astrid est à l'initiative de toutes les actions caritatives possibles pour soutenir les victimes de la crise économique qui frappe le pays depuis la fin des années 1920. Pourtant, et alors même que sa popularité est au firmament, elle s'apprête à être fauchée par un destin qui, décidément, semble vouloir s'acharner sur la famille royale. Nous sommes le 29 août 1935. L'après-midi tire sur sa fin à Bruxelles. Le soleil est encore haut dans le ciel, la température est élevée. Cafés et commerces sont en ébullition, les touristes et les habitués se mêlent et se fondent dans un manège qui semble presque orchestré à l'avance tant la fluidité de tous ces mouvements est impressionnante. La grande place est pleine de monde, tous profitent des derniers jours de vacances. José est la tenancière d'un café qui jouxte l'une des places les plus célèbres d'Europe. Les clients sont nombreux, les enfants dégustent des glaces et les bières coulent à flot. Le tout dans un brouhaha caractéristique de ces ambiances des chaudes journées ensoleillées. La radio est allumée, comme toujours. Elle couvre à peine le bruit des conversations des piliers de comptoir qui déballent leur déboire avec leur femme ou leur maîtresse, c'est cela. Soudain, la speakerine annonce un flash spécial. José est en train d'essuyer une pinte qui vient d'être nettoyée. Elle tend l'oreille. Et puis un instant plus tard, reste saisie. L'impensable vient de se produire. Astrid, reine consort de Belgique, est morte dans un tragique accident de voiture en Suisse en début d'après-midi. Plus d'informations à venir. C'est le choc. La pinte explose au sol dans un fracas assourdissant et le café tout entier se tait. Les piliers ne parlent plus de leurs femmes. Les enfants ne rigolent plus en avalant leur crème glacée. Plus personne ne bouge. Une chape de plomb vient de s'abattre sur Bruxelles en un seul instant. Astrid est morte et personne ne veut y croire. La Belgique est en deuil de manière instantanée et cherche à comprendre ce qui a bien pu se passer. Quelques heures plus tôt, le couple royal était encore en vacances dans sa résidence tout près de Lucerne, en Suisse donc. Les souverains devaient rentrer le lendemain sur la capitale belge. C'en était donc fini de la période de congé. Astrid a souhaité faire une dernière balade en voiture sur les routes alentours, au bord du lac, comme un au revoir à un idyllique moment qui s'achève. Ils ont pris la direction de Zurich et ont cherché un itinéraire. Le roi est au volant, sa femme, la reine, à ses côtés. Derrière eux se trouve leur chauffeur qui, de manière inhabituelle donc, joue aux passagers. Astrid, quant à elle, tient dans ses mains une carte routière dépliée sur ses genoux. Et elle ne s'y retrouve pas. Elle reproche à son royal mari et au chauffeur à l'arrière de ne pas lui venir en aide alors qu'il va bientôt falloir se décider sur le chemin à prendre. Léopold III se penche alors sur la carte pour aider sa femme en difficulté et perd le contrôle du véhicule. Un coup de volant un peu plus brusque, presque anodin, et c'est la catastrophe. Le roadster décapotable, trop chargé en bagagerie, vient heurter le muret du bord de route de plein fouet. Léopold encaisse le choc tant bien que mal, se blesse au front et du sang dégouline sur son visage. Il ne voit plus rien. Il essaye avec sa main d'attraper celle de sa femme. Il ne la trouve pas. Il ne l'entend pas non plus. Il essuie son visage d'un revers de sa manche, puis se tourne vers sa droite. Recroquevillé à l'extérieur de la voiture, non loin de la portière de l'engin, la reine Astrid agonise. Il est déjà trop tard pour elle. Les secours n'arriveront que pour constater l'ampleur des dégâts. Les journalistes vont se charger de répandre l'affreuse nouvelle. La reine est morte, emportée au crépuscule de sa vingtaine. La tragédie est effroyable, à peine croyable. Plus de 500 000 personnes viendront se recueillir sur son cercueil exposé au Palais Royal de Bruxelles. La Belgique compte alors un peu moins de 8 millions d'habitants. Le pays entier, que dis-je, le monde est bouleversé par la tragédie. La reine sera inhumée le 3 septembre 1935. Les caméras du monde entier couvre l'événement. Des documentaires dans toutes les langues sont réalisés à la hâte sur la vie et le règne bien trop court de cette souveraine au grand cœur. Le temps de la cérémonie, le pays tout entier, des écoles au café en passant par les administrations publiques, tout s'arrête et meurt. Tous les cœurs battront à l'unisson pour leur reine qui a tant marqué son époque malgré une vie si courte. Une étoile filante dans le ciel d'été, limpide, claire, merveilleuse. Disparaissant aussi vite qu'elle est apparue, Astrid laisse un goût d'amertume et de tristesse en bouche et au fond de la gorge lorsqu'on évoque son nom. Son mari, Léopold III, devenu veuf, père de 3 enfants, dont 2 futurs rois, épousera bien plus tard, Liliane Ball, mais en secret. Personne en Belgique ne veut voir une femme remplacer Astrid. La malédiction le poursuivra lui aussi. Son comportement pendant la Deuxième Guerre mondiale, durant la fameuse campagne des 18 jours qui entraîne la reddition du pays sous les bottes de l'ogre nazi, lui coûtera son trône. La fameuse et célèbre question royale est en route et en 1950, à son retour au pays, la situation politique est intenable. Le 31 juillet, il accepte de confier la lieutenance du royaume à son fils, le prince Baudouin, avant d'abdiquer totalement en sa faveur le 16 juillet 1951. Fin de l'histoire. Léopold III mourra dans la nuit du 25 septembre 1983 à l'hôpital Saint-Luc, des suites d'une intervention chirurgicale au coroner. Il avait 81 ans. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une anecdote qui pourrait, à elle seule, résumer la vie de cette reine que beaucoup en Belgique ont comparée à Lady Di, ayant toutes deux connu le même destin tragique. En 1937, bien loin de Bruxelles, dans la ville de Lyon, des botanistes mettent au point une nouvelle variété de roses rouges. Ils lui cherchent un nom et, soudain, le visage de l'un d'eux s'éclaire et ils décident de la nommer en honneur de la reine Astrid. C'est le nom qu'elle porte encore aujourd'hui. La classe, l'élégance, toujours. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean et je vous fixe rendez-vous ce 20 janvier pour une soirée exceptionnelle consacrée aux reines des Belges.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.